Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « Saint Ménas, soldat et martyr, sa vie, ses miracles, son sanctuaire ». À l'occasion de la parution au début de l'année 2020 aux éditions Lié Parle d'un ouvrage sous ce même titre. Le culte de Ménas, ce saint soldat et martyr du IVe siècle, a connu et connaît jusqu'à nos jours une grande diffusion, tant dans le monde oriental qu'occidental. Pour en parler, nous recevons Seyna Bako, égyptologue, spécialiste des textes coptes du VIe au VIIIe siècle, auteur de ce livre et traductrice du copte des 12 textes qu'il contient, à savoir 12 miracles attribués à Saint Ménas. Seyna Bako, quelques mots sur la naissance de ce livre?
Eh bien, à l'origine, en 2011, Anne Boudan m'a confié l'édition d'un manuscrit de l'IFAO qui contenait 4 miracles de Saint Ménas. À l'occasion de cette édition, évidemment, j'étais obligée de regarder tout ce qui avait été publié par ailleurs. Et il n'y avait en fait qu'une édition de 1946 de Drescher, un savant américain, donc édition en langue anglaise, et qui avait été suivie en 1958 de 2 articles du père de Vos. Et puis c'était tout. Ce qui fait qu'il nous est venu l'idée qu'il fallait faire vraiment connaître en français et dans une édition agréable, facile à lire, pour tout public, jolie, ce qu'elle est, parce qu'il faut remercier notre éditeur, c'est joli, il y a une belle carte, il y a un beau cahier photo, et c'est un livre très agréable à lire.
C'est vrai, d'ailleurs il faut saluer l'éditeur, comme vous dites. Nous avions présenté ici même les 2 autres titres de cette collection, Saint-Nectaire des d'Égine, par Yvan Koenig, des lettres pastorales et moniales, au monial d'Égine, pardon. Et puis Anne Boudor, justement, avec Chantal Hurtel, Franguet, moine d'Égypte, une correspondance sur terre cuite au 8e siècle. Le livre présenté ici est toujours actuel, pour qui s'intéresse à ce genre de voyage dans le temps et dans l'espace, puisque nous allons en Égypte. Mais on va voir que ce Ménas n'était pas seulement en Égypte, il est très vénéré en Égypte, mais il vient pas de là, et en tout cas, il a bougé. Son culte aussi, voilà. Oui. Alors, si vous voulez bien, on va prendre les choses dans l'ordre et on va commencer par la vie, justement, de ce personnage. Qui est-il?
Des parents chrétiens originaires de la Maréotide. Le père est nommé gouverneur de Phrygie en Asie mineure. Ménas naît là, grandit là. À 15 ans, il est enrôlé, parce qu'il le faut, dans un régiment d'élite. Et il est considéré comme un remarquable soldat, faisant son devoir, courageux, brave et beaucoup aimé de ses soldats. Il se trouve que, à l'époque, au IIIe siècle, au moment des édits de l'empereur Dioclétien, ce régiment est obligé de s'occuper des chrétiens. Et donc, il refuse cela et il se retire et mène une vie d'anachorète dans les déserts alentours. Et puis, une voix lui dit de retourner. Il retourne devant un gouverneur et des juges. Là, il explique « Je suis un soldat », dit-il, « mais lorsque j'ai pris connaissance de l'édit impie, je suis devenu anachorète, et maintenant je reviens, je suis soldat du Christ, et je reviens défendre le Christ. » Il est donc jugé et mis à mort.
Dans les livres liturgiques, le 11 novembre, puisque sa fête est le 11 novembre chez les orthodoxes, mais je crois que chez les coptes c'est la même chose, et c'est la même chose dans l'église latine. Oui. C'est, évidemment, ce sont les saints du premier millénaire, l'église indivise, donc on retrouve l'unité chrétienne autour de cela. Alors, il est dit donc, c'est un grand martyr qui a connu la mort en 304. C'est le règne de Dioclétien,
c'est ça? C'est le règne de Dioclétien, oui.
Voilà, c'est ça, Dioclétien. Un grand empereur au plan administratif pour l'Empire, mais qui est resté, évidemment, dans l'histoire chrétienne, d'une manière, extrêmement négative, parce qu'il a lancé des persécutions assez dures. On vient maintenant à Ménas, et puis, pourquoi ce culte en Égypte?
Eh bien, ses fidèles, et en particulier son régiment, veulent ramener son corps en terre d'Égypte. Et donc, il y a une traversée fameuse, où le bateau transportant les reliques de Saint Ménas est attaqué par des chameaux qui crachent du feu, et les reliques chassent les chameaux. les reliques et le régiment atterrissent donc en Égypte, dans la région du lac Mariout, justement. Et puis, la caravane de chameaux, à un endroit, s'arrête net, refuse d'aller plus loin. Et le préfet Anastasis, qui accompagnait, comprend que c'est là qu'il doit être enterré. Donc, on enterre à cet endroit Saint-Ménard. On construit un petit martyrium pour commencer. Les miracles se multiplient. Et donc, on construit de plus en plus. Les pèlerins arrivent de plus en plus. Le pèlerinage est créé.
Et là, on est vraiment à l'origine, excusez-moi, à l'origine de la manière dont le culte des saints, d'une manière générale, hein, est connu dans le monde chrétien. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à travers Ménard, on a aussi toute une histoire de la sainteté chrétienne de cette époque-là.
Oui. À partir des reliques du saint et des miracles autour des reliques.
Donc le martyrium, un mot pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est ?
C'est un petit temple, toute petite construction, qui consistait, en ce qui concerne le martyrium de Saint-Ménard, en une crypte obscure, profonde, mais vraiment très obscure, et le corps du saint était dans une châsse en bois très solide, et c'était éclairé avec seulement une seule lampe à huile au-dessus, qui brillait mais en permanence, et c'est cette huile sainte qui était mise dans les ampoules à eulogie qui guérissaient, car on bénissait et on faisait l'onction de cette huile pour guérir les pèlerins. Et puis c'est cette huile sainte qui était transportée dans les ampoules à eulogie et qu'ils ont rapportée dans le monde entier.
Alors les ampoules à eulogie, il faut expliquer, c'est des petits flacons, hein, c'est ça, qui sont donnés en bénédiction.
Les ampoules à eulogie, ce sont des petits flacons en poterie qui servaient et donc que les pèlerins rapportaient.
Et bien sûr, tout ceci est confirmé par l'archéologie, puisque les ampoules, on les retrouve après.
Alors, c'est confirmé par l'archéologie, puisque les ampoules, on les retrouve tout le long des voies commerciales, puisque les pèlerins, évidemment, quand ils rentraient chez eux, suivaient ces voies. Et on en a retrouvé, par exemple, à Paris, rue Dante, par exemple, jusqu'en Grande-Bretagne, vraiment partout.
Nous allons revenir à la présence de Ménas, ou en tout cas de ses reliques en France et de son culte en France. Un mot sur le grand sanctuaire qui va succéder au martyrium.
Oui, c'est donc tout le long du 5e siècle, les empereurs successifs agrandissent le sanctuaire. Donc c'est une basilique, deux basiliques, trois basiliques, baptistère, toute une ville avec monastère, hôtel pour les pèlerins, tout ce qu'il faut pour la vie du monastère et des pèlerins, c'est-à-dire les tables à chameaux, les pressoirs à vin, les pressoirs à huile, les fours des potiers, et j'en passe.
Écoutez, nous allons faire maintenant de la pause. On va dans la liturgie, c'est le tropaire de Saint-Ménas, puisque dans l'église, pour chaque saint, évidemment, il y a un tropaire, il y a un chant. Alors ça, c'est le tropaire de Saint-Ménas par Yannios Volanakis, où l'on chante évidemment l'abandon par le saint de l'armée de ce monde au profit d'un sort céleste. Stratian kateli pestin kosmi. C'était donc le tropaire de Saint-Ménat par Yannios Volanakis. Ménat, donc mégalomartyr en Phrygie, dit le livre liturgique, mort en 304. Nous revenons à notre conversation avec Sena Bako sur son livre Saint-Ménat, soldat et martyr, sa vie, ses miracles, son sanctuaire, paru cette année aux éditions Lié Parle. Ben, c'est le moment de parler des miracles. Hein. Alors, un saint, de toutes les manières, surtout à cette époque-là, c'est caractérisé par les miracles. Hein. C'est ce qui est le premier signe de sainteté. Et on a vu qu'il y a un culte qui va être diffusé même, vous l'avez dit tout à l'heure, en dehors d'Égypte. Alors, quels sont ces miracles? Comment les connaît-on? Et peut-être un mot sur ces textes qui nous rapportent justement les miracles.
Alors d'abord, comment les connaît-on? Bien entendu, c'est par le bouche à oreille au départ. Les pèlerins assistaient aux miracles, admiraient ces miracles et les racontaient tout le long justement des voies commerciales. Ils les racontaient partout. Et c'est pour cela que ces récits sont tellement intéressants à lire à tout point de vue. D'abord parce qu'ils sont, vivants, ils sont pittoresques, ils peuvent être dessinés, ils pourraient être mis en scène, on pourrait même en faire des films si vous voulez, et les dialogues sont très savoureux. Eh bien, je voudrais peut-être lire un passage maintenant.
Je vous en prie.
Le passage du miracle 3. Il s'agit d'un riche commerçant qui s'appelle Eutropios, et qui veut apporter 2 plats d'argent aux saints. Mais il a fait quelque chose de pas bien aux yeux du saint. Le plus beau plat, il le garde pour lui. Et il se dit, pour le saint, je donnerai le plat le moins réussi. Et voilà-t-il pas qu'il y a une tempête pendant la traversée et que le jeune homme, le jeune serviteur, en lavant le plat, il le fait tomber dans l'eau et désespéré, il se jette à l'eau et il disparaît dans l'eau. Eutropios est désolé d'avoir perdu son serviteur. Et puis, il dit, j'ai confiance. Saint Ménat va me le rendre. Et tandis qu'il disait cela, voici que le jeune serviteur arriva, le plat posé sur son épaule, avançant et examinant les bateaux pour voir s'il reconnaîtrait le bateau de son maître. Quand Eutropios le vit cherchant du regard l'ensemble des bateaux, aussitôt les marins se levèrent, jetèrent l'ancre au rivage. Le jeune garçon s'accrocha à la corde jusqu'à ce que le bateau entre au port. Et quand le bateau eut accosté, aussitôt Eutropios le serra dans ses bras, l'embrassa et lui disait « Mon cher enfant, je te retrouve. Quel grand présent m'a fait le saint Apaména, le vaillant soldat. Béni soit tous les martyrs. Ô mon enfant, que t'est-il arrivé dans le lac ?» Le serviteur lui répondit « Au moment où le plat en argent est tombé de mes mains au fond du lac, je me suis dit « Mieux vaut pour moi me donner la mort, car je savais bien que ton cœur était attaché à ce plat plus qu'à toutes tes richesses. » Aussi j'ai sauté dans le lac, un être de lumière est venu vers moi, il y avait aussi 2 anges qui allaient avec lui, il m'a saisi, m'a enveloppé de sa robe de lumière, sorti de la suffocation causée par les eaux. Il n'a pas cessé de m'accompagner jusqu'au moment où je t'ai vu et après cela il est remonté en haut du ciel sous mes yeux.
Un petit commentaire donc sur le miracle maintenant.
D'abord c'est les bons sentiments du maître envers son serviteur, et du serviteur envers son maître, qui est désolé de la perte du plat. Bon. Ensuite, la vie du récit, animée par un dialogue entre Eutropios et puis le jeune enfant, et puis le merveilleux qui est introduit avec le miracle, l'apparition de Ménat qui le remonte hors de l'eau et qui le sauve.
Il faut dire aussi pour ces récits de miracles qui très souvent sont évidemment ont un côté extraordinaire et qui font parfois même rire certaines personnes, que ce sont des textes quand même qui donnent beaucoup d'informations sur l'époque.
Alors ça, c'est pour moi, c'est vraiment un des intérêts essentiels. D'abord parce que le chemin de Saint Ménat, on pourrait dire ça comme pour le chemin de Saint-Jacques, le chemin de Saint Ménat est extrêmement difficile. Il faut parfois, comme certaines dames, ils vont en cachette de leur mari. Il faut affronter la traversée où généralement il y a une tempête. On atterrit à Philoxenita, une ville construite par l'empereur Zénon pour accueillir les pèlerins, puisqu'il n'y avait rien. Mais même dans cette ville, pour être logé, on risque gros. Il y en a un, comme vous savez, qui se fait couper la tête par son logeur. Ensuite, ayant quitté Philoxenita, il faut traverser le désert, ce qui est long, pénible, et en plus, on peut y faire de mauvaises rencontres. Mais alors, quand on arrive à Abou Mena, c'est extraordinaire. Il faut se rendre compte de la beauté des basiliques. ils n'ont jamais vu ça. Ce sont souvent des paysans qui viennent de leur campagne. Il y a des maisons à étages, il y a un grand marché, il y a un hôtel pour les pèlerins. Pour eux, c'est extraordinaire. Je précise que tout ce qui est dit là-dedans est absolument authentique. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas de l'imagination. C'est corroboré ou par des textes ou par les fouilles archéologiques.
Un mot peut-être, si vous voulez bien, sur la date de ces textes. Est-ce qu'on peut vraiment les dater ?
Oui, tout à fait. Ce sont 4 manuscrits donc en langue copte, la langue des chrétiens d'Égypte, qui nous les ont transmis. Ces 4 manuscrits vont du 9e au 11e siècle.
Mais est-ce qu'on peut savoir à peu près quelle est l'époque aussi des faits ? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui se passait du 9e au 11e, ou on peut penser que c'était vraiment des faits qui ont eu lieu plusieurs siècles avant ?
En ce qui concerne les 2 derniers miracles, on voit que ce sont 2 miracles plus tardifs, en particulier parce que il n'est plus question de païens, de conversion de païens, c'est vraiment plutôt des mauvais chrétiens qui doivent se convertir, et c'est tout de même différent des premiers, où on voit que c'est carrément plus ancien, puisque ça porte beaucoup sur des païens qui se convertissent, donc qui vénèrent encore leurs idoles, et puis qui sont convertis par le miracle de Saint Ménat.
Et quelques mots maintenant peut-être sur la vie de ce sanctuaire. Jusqu'à quand il est présent ? Jusqu'à quand les chrétiens y vont ?
Il est présent du 4e siècle au 14e siècle. Encore au 11e siècle, il y a un texte d'un voyageur arabe qui vante les beautés et des vignes, et des vignobles, des jardins, des basiliques. Mais peu à peu, comme tous les monastères coptes, ils déclinent à cause des taxes diverses qui s'abattent sur les monastères. Et finalement, au XIVe siècle, les reliques de Saint Ménat sont transportées dans une église du Vieux-Caire.
Est-ce que c'est un endroit qu'on peut visiter maintenant, un site archéologique ?
Le site du sanctuaire, bien entendu, on peut le visiter. Et, comme vous savez, le patriarche Damien a fait reconstruire une basilique. Et c'est tout aussi un lieu de culte moderne.
Pour l'église copte, bien sûr, oui, tout à fait. Et il faut dire que c'est pas seulement l'église copte, c'est ce qui est extraordinaire, ça a diffusé en dehors d'Égypte et très loin même. Alors, est-ce qu'on a des informations concernant justement cette diffusion ?
Oui.
Parce qu'il y a plein de traces en France de ça.
Il y a une trace en particulier à Pègues, dans la Drôme, où il reste un vitrail, un très beau vitrail de Saint Ménat en soldat. Il y a des traces en Catalogne, puisqu'à une demi-heure de voiture de Barcelone, à Saint Ménat, on fête encore dans l'église qui est consacrée à Saint Ménat, et où il y a une statue en bois du 18e de Saint Ménat, absolument superbe. Le 11 novembre, on vénère encore, c'est une grande fête pour Saint Ménat.
Et ailleurs aussi, par exemple en Crète, la cathédrale de Crète, la cathédrale qui est à Héraclion, est consacrée sous le vocable de Saint Ménat. La fête est le 11 novembre, donc on voit une diffusion très importante. Et peut-être pour terminer, on va prendre un autre miracle, si vous voulez bien. Choisissez celui qui vous plaît le plus et qui peut-être nous donne plus de renseignements sur l'époque ou sur la manière dont les chrétiens de l'époque vénéraient ce saint soldat et martyr.
3 hommes se rendirent à l'église d'Apamena pour prier. Ils prirent un cochon, chacun pour l'offrir au sanctuaire. Ils se levèrent donc à 3, marchèrent avec les cochons jusqu'à ce qu'ils arrivent au lac. Ils s'assirent pour manger. Ils dirent « Faisons boire notre bétail à l'eau avant de manger. » Et chacun se mit à chasser son cochon vers l'eau pour le faire boire. Mais voici qu'un crocodile bondit et en happa un. L'homme à qui appartenait le cochon, cependant, saisit sa patte pour le tirer vers la rive, en criant « Dieu de Saint Apamena, secours-moi » Lorsque le crocodile vit l'homme, il lâcha le cochon, attrapa l'homme et l'entraîna au fond de l'eau, où bien sûr Saint Ménat le sauva.
Alors, ici, et c'est une situation complètement différente, hein. Quel est le sens, je dirais, enfin, de ce texte?
Alors, le sens de ce texte, c'est qu'évidemment, ça, c'est le tout début. Mmh. Bon. Parce que il faut vraiment lire tout le miracle, parce que en fait le paysan là qui a été entraîné là tout au fond, Saint-Ménat le sort de l'eau et le transporte dans la crypte du martyrium. Bon. Et puis il est enfermé là, bon, par le jeune homme qui s'occupe de fermer toutes les portes. Et le lendemain, le jeune homme arrive. Mais il y a quelqu'un qui ne devrait pas être là, qui est dans la crypte. Alors, tout le monde accourt, on pense que c'est un voleur qui est venu s'emparer des reliques. Et finalement, il dit, mais non, d'ailleurs, vous n'avez qu'à aller jusqu'au lac et vous retrouverez mes compagnons et les cochons que nous devions offrir à Saint-Ménat. Et effectivement, tout le monde y va, évidemment. Il y a les deux témoins qui témoignent de la vérité du récit du paysan. Et tout le monde se réjouit et remercie Saint-Ménat de ce grand miracle.
Ce qui veut dire que Saint-Ménat est considéré un peu comme le protecteur de toute cette région, de tout ce monde. Hein.
Le protecteur, mais il faudrait préciser pas seulement de toute cette région, parce que dans les miracles, vous avez aussi bien des étrangers d'Isaurie, un Isaurien, une Samaritaine, des gens d'Alexandrie, et pas seulement des païens, des chrétiens, des gens de toutes conditions. Vous avez absolument des pèlerins de toute origine.
Et le culte continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'était pas propre seulement à cette époque. Là, il faut y penser. Donc, écoutez, il faut lire ce livre pour découvrir cette littérature très particulière d'ailleurs et toujours vivante. Vous avez dit tout à l'heure, ça peut être un peu folklorique, ça peut être un peu animé et plein d'informations pour les scientifiques aussi d'aujourd'hui. Alors, c'est Nabacco, Saint-Ménat, soldat et martyr, sa vie, ses miracles, son sanctuaire, aux éditions Lis et Parle. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Valérie Lavalard. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et voici maintenant le service protestant.